Voilà, c'est reparti. Yofi. Tov. Alors, Erev Tov, les Koulam. Et voilà, après l'expérience marocaine, eh bien, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous reste à faire sinon de parler d'un rabbin qui est au-delà de toutes les, de tous les clivages et de toutes les considérations Ashkenaz, Sépharade. On va parler de quelqu'un qui n'a pas d'obédience particulière, qui est au-delà de tout ça. Ok, on va parler de celui qu'on appelle Tsofer Geoula, celui qui va accompagner la Geoula, tout simplement. Alors, si je vous dis qu'on parle du Rav Tzvi Yehuda, tout le monde le connaît. Voilà, je vais vous dire, dès qu'on a commencé, eh bien, cette série d'études sur des personnages incroyables, évidemment, tout de suite, ma question a été dans ma tête, bon, quand est-ce qu'on parle du Rav Kook? Et au départ, je vous avoue que je me suis dit, nah, c'est pas la peine, tout le monde connaît, donc c'est pas la peine d'en parler. Et puis, ils vont après nous taxer de sionisme mal placé. Mais finalement, d'abord, un, c'est pas vrai que tout le monde connaît. Et deux, de toute façon, tous les personnages qu'on a évoqués, ils étaient tous d'un sionisme exacerbé et énorme et complètement, assumé. Donc, on n'a aucun problème avec ça. Aujourd'hui, on va parler du Rav Tzvi Yehuda. À la question, et quand est-ce qu'on va parler du Rav Kook alors? Eh bien, je vous avoue que celui-là, je le garde au chaud. On fera à un moment donné un épisode sur le Rav Kook, mais je le garde pour l'instant au chaud. Donc, ce soir, c'est parti. Harav Tzvi Yehuda HaKohen Kook. Alors, je voudrais commencer dans notre étude par une chose évidente. On va commencer par ouvrir une porte ouverte. C'est qui le Rav Tzvi Yehuda? Eh bien, c'est le fils de son père. Waouh! Eh bien, oui. Peut-être que la meilleure définition du Rav Tzvi Yehuda Kook, c'est qu'il est le fils de son père. Il va accepter de relever ce défi énorme, ce rôle incroyable d'être le fils du Rav Avraham Yitzhak HaKohen Kook. C'est pas évident, et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles on s'est habitué, enfin, moi je ne suis que récent, mais que ses élèves se sont habitués à l'appeler Moreno Rav Tzvi Yehuda. C'est-à-dire que c'est assez rare qu'on ne cite pratiquement jamais le nom de famille d'un rabbin. Mais c'est parce qu'il était tellement la suite de son père qu'on ne pouvait pas l'appeler le Rav Kook 2. Donc, il fallait lui trouver quand même une appellation différente. Et donc, on l'a appelé Rabbeinu Harav Tzvi Yehuda. Mais en vérité, Harav Tzvi Yehuda Kook, c'est tout simplement la succession de son père. À une différence près. Le Rav Kook va inonder le monde d'idées absolument incroyables, révolutionnaires pour son époque. Le Rav Tzvi Yehuda va avoir une tâche absolument enfin, une tâche d'une difficulté incroyable, puisqu'il va devoir traduire l'idéal en réalité. Et ça va être ça la grande mission du Rav Tzvi Yehuda HaKohen Kook. Alors, venez, on rentre d'abord dans un petit peu d'histoire, un petit peu d'historique, avant de rentrer dans l'œuvre du bonhomme. Quelle était sa Torah? Quelle a été la révolution du Rav Tzvi Yehuda? Allons-y. Alors, bon, tout d'abord, il naît en 1891, pas de problème. À Zimmel, son père est le rav de la ville, pas de problème. Mais on va dire que sa jeunesse, alors tu veux que je te dise quoi? Qu'il étudie la Torah et que c'est déjà dans ses plus jeunes années, il est considéré par tous ses maîtres comme étant un ilouï. Bon, oui, mais à chaque fois qu'on va te parler d'un rabbin dans ce cours-là, eh ben on va te dire qu'au départ, il est considéré par tous comme étant un grand, un grand, un grand. Donc non, il va falloir un petit peu plus mettre l'accent. Sa véritable révélation va commencer en 1904. En 1904, il arrive en Eretz Israël avec son père, avec sa famille. Ils arrivent à Yafo. À ce moment-là, il a à peine 15 ans et il est considéré par non seulement ses pères, mais par tous les personnages de la yeshiva dans laquelle il va étudier, qui est la grande yeshiva de Jérusalem, parce que bien que son père soit le rav de Yafo au départ, lui, il va étudier à Jérusalem. Yeshiva qui s'appelle Torah Chaim, eh bien, il est considéré déjà comme étant celui qui doit répondre aux questions. Mais en vérité, la grande particularité du Rav Tzvi Yehuda en termes de curriculum vitae historique, eh bien, c'est ce qui se passe en 1912. En 1912, sous les conseils de son père, et encore une fois, qui de plus sioniste que le Rav Kook? Mais sur les conseils de son père, il part d'Eretz Israël et il va étudier en Allemagne. La Torah! Pas, tu vas me dire, il va à l'université. Bon, il va aussi à l'université. Mais il va aller étudier la Torah en Allemagne. Lama! Pourquoi il ne peut pas étudier la Torah en Israël? Ben, pour une raison très simple. Parce qu'il est le fils du Rav Kook. Et qu'à ce moment-là, en 1912, eh bien, le Rav Kook a déjà énormément, énormément fait parler de lui. Et donc, il a déjà énormément de gens qui ne sont pas forcément ses copains. Résultat des courses, eh bien, on ne le laisse pas tranquille, le jeune Rav Tzvi Yehuda. Tout le monde lui tombe dessus parce qu'il est le fils du Rav Kook. Et ton père, et ton père, et ton père, et ton père. Et on ne le laisse pas tranquille. Le Rav lui dit, tu as besoin d'un moment où tu peux grandir tranquille. Pour l'instant, en Israël, tu ne peux pas grandir tranquille à cause de moi. Pars. Et tu reviendras dès que tu seras prêt. Il part donc. Et pendant 2 ans, il va étudier à Halberstadt. Et il va étudier là-bas. Ça ne va pas durer très longtemps, l'étude seule en Allemagne. Pour la simple raison que vous connaissez l'histoire. Le Rav Kook va arriver en Europe juste avant la Première Guerre mondiale. Il va être bloqué pendant la Première Guerre mondiale. Et finalement, va arriver en Suisse. À ce moment-là, son fils le rejoint en Suisse. Et ils vont donc étudier ensemble là-bas. Et ce n'est qu'après que le Rav Kook partira en Angleterre, eh bien que le Rav Tzvi Yehuda reviendra en Eretz Israël. Il revient en Israël en 1920. Il revient en Israël et à ce moment-là, eh bien, il prend aux côtés de son père la direction tout simplement de la yeshiva de Merkaz Arav. Le Rav Avraham Yitzhak HaKohen Kook va créer la yeshiva de Merkaz Arav en 1923. Le Mashgiach Rouhani et le Menael Logisti de la yeshiva, c'est le Rav Tzvi Yehuda. En d'autres termes, le Rav Kook, il est là-haut, là-haut, là-haut dans la yeshiva. Celui qui concrètement met la yeshiva sur les rails, eh bien, c'est le Rav Tzvi Yehuda. Entre 1933 et 1939, eh bien, à la yeshiva, il va s'occuper de quelque chose. Je préfère le garder pour l'instant en secret, mais rappelez-vous que c'est une période où il est extrêmement actif. Mais ce n'est qu'en 1952 qu'il deviendra le Rosh. Papa, ouais, tu m'as muté. C'est bon? Vous m'entendez? Ok. Ce n'est que en 1952 que le Rav Tzvi Yehuda prend la direction de la yeshiva. Il faut savoir que entre le Rav Kook et le Rav Tzvi Yehuda, il va y avoir une petite période où le Rosh Yeshiva sera le Rav Harlap. Ce n'est qu'après la mort du Rav Harlap que le Rav Tzvi Yehuda prend la direction de la yeshiva, devient Rosh Yeshiva en 1952. Il restera 30 ans Rosh Yeshiva de Merkaz Arav jusqu'à son décès en 1982. Alors ça c'est pour si on voulait parler très rapidement de la biographie de l'homme. Mais venez maintenant, on va rentrer dans l'œuvre. Qui est le Rav Tzvi Yehuda? Comme on a dit, eh bien, le Rav Kook, évidemment, va lancer un idéal dans sa Torah qui est absolument incroyable, mais qui est pour l'instant du domaine de la théorie. Lorsque le Rav Kook écrit que Medinat Israël y yesod ki se Hashem ba'olam, que l'État d'Israël est la base du trône céleste dans le monde, c'est très beau. Mais le problème, eh bien, c'est que pour l'instant, il n'y a pas d'État d'Israël. En d'autres termes, le Rav Tzvi Yehuda, et si on devait résumer toute cette Torah en une phrase, ce qui est impossible, eh bien, on dirait que le Rav Tzvi Yehuda va devoir traduire dans un monde où l'État d'Israël est créé, donc dans un monde où, eh bien, le rêve du père est devenu réalité. il va devoir nous expliquer comment est-ce qu'on pratique au quotidien l'enseignement théorique du Rav Kook. Et ça, c'est tout un travail. Maintenant, il faut comprendre une chose. Rav Kook et Rav Tzvi Yehuda hem neshama achat. Hem neshama achat à tel point que lorsqu'il sera déjà le grand rabbin d'Israël, le Rosh HaYeshiva, eh bien, celui qui répondra à la majorité des lettres envoyées au grand rabbin d'Israël, au Rav Kook, eh bien, ce sera le Rav Tzvi Yehuda. C'est là que va être extrêmement surpris le Rav Binyamin Moshe Levin. Le Rav Binyamin Moshe Levin était un rabbin de la yeshiva de Telz. Et il était la chavruta du Rav Moshe Zeidel. Donc, Rav Binyamin Moshe Levin et Rav Moshe Zeidel étaient chavrutot, yeshiva de Telz, et ils correspondaient avec le Rav Kook très souvent. Il faut savoir que le Rav Levin était le moré du petit Tzvi Yehuda lorsqu'ils étaient encore en Europe de l'Est. Et il va, dans Igrot Ria, on peut voir qu'il va demander une question au Rav Kook, et celui qui va lui répondre, c'est le Rav Tzvi Yehuda. Il renverra une lettre au Rav en disant « Je suis très étonné de voir que c'est ce jeune Tzvi Yehuda, qui certes a bien grandi et qui est devenu un Talmid Chacham, mais bon quand même, qui me répond. » Et le Rav Kook répond « Yedidi Ayakar », je cite, on voit ça dans Igrot Ria, il dit « Yedidi Ayakar, Haiti sameach la'anot le kol echad ba'arichut, ach ani kol kach amus. » J'aimerais bien répondre à tout le monde en long, en large et en travers, mais j'ai pas le temps. Ach en davar. Baruch Hashem, zachiti, shebeni yechol lemale et mekomi. Sache que j'ai de la chance, mon fils peut me remplacer. Dalecha, sheafalpi shetzvi Yehuda odenu na'ar. Sache que bien qu'il soit encore jeune, nishmato krova elai kolkach. ונפשו כותאורה ועדינה, שרעיונותיו המאירים ודאי קרובים מאוד לדעתי. הקשב לו, נער זה עוד יהיה בעזרת השם לברכה לעולם כולו. Son âme et mon âme sont reliées. Tu peux lui faire complètement confiance. Ce qu'il dit, c'est ce que je pense. Et sache qu'il sera une bracha pour le monde entier. C'est le lien qui unit le Rav Kook au Rav Tzvi Yehuda, son fils. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, entre 1933 et 1939, il est encore jeune. Il est encore jeune. Il a, à ce moment-là, à peine 40 ans. Il fait partie, on a dit, des dirigeants de la Yeshiva de Merkaz Harav. Mais, pendant cette période-là, il s'occupe d'un travail, Messimat Kodesh. Et c'est lui, pour ce coup-là, hein, qui va voir son père et qui lui dit, il faut qu'on s'occupe de ça. Alors que d'habitude, c'est son père qui lui dit que faire. Là, c'est lui qui vient voir son père et qui lui dit, il faut faire quelque chose. Là, quelque chose en question, eh bien, c'est de faire monter en Israël les Juifs de Russie. Alors, comprenez bien, on n'est pas encore dans l'URSS qu'on connaîtra après la Deuxième Guerre mondiale. Il n'y a pas encore le rideau de fer comme il y aura après la Deuxième Guerre mondiale. Mais quand même, on ne sort pas de Russie comme ça. Pour sortir de Russie, eh bien, il faut un laissez-passer et il faut, pour pouvoir venir en Israël, un certificat qui sera accepté par les Britanniques. Or, eh bien, qu'est-ce qui peut être légitime pour faire venir un juif en Eretz Israël ? Pashut ! Ben, on a besoin de lui. C'est un travailleur essentiel. Il est rabbin. On a besoin de rabbanim. Et c'est exactement ce qui va se passer. En tant que grand rabbin d'Israël, le Rav Kook peut signer les certificats. Alors, il le fera pendant les deux dernières années de sa vie. Ensuite, eh bien, il ne sera plus là, mais le Rav Tzvi Yehuda continuera avec ses contacts avec les dirigeants, les grands rabbins d'Israël qui vont suivre, le Rav Herzog, par exemple. Eh bien, il va continuer toujours, eh bien, à dire on a besoin de ces gens-là. Des fois, il s'agit de personnes qui n'ont jamais étudié la Torah. Mais on a besoin de les faire venir. Ah, mama. Alors, il va les faire venir, il leur donne une théouda de rabbin et après il les lâche dans la nature? Pas du tout. Toutes les personnes qui viennent passent à la yeshiva de Merkaz Harav pour apprendre à devenir vraiment des rabbins. Et en cela, le Rav Tzvi Yehuda va commencer à faire grandir une génération de Talmidim. Pour lui, la réalisation de Kibbutz Galouyot, dont son père avait tellement parlé, c'est d'avoir de premier plan. C'est quelque chose qu'il faut absolument concrétiser. Car la Kdusha de Médinat Israël ne pourra se réaliser que s'il y a à la maison des Béné Israël. Donc faire venir les enfants d'Israël, eh bien, c'est la Messima numéro un. Rav Tzvi Yehuda, si on continue un petit peu, pour comprendre un petit peu qui est le personnage, il faut comprendre qu'il s'agit tout simplement, dans tous les domaines de la Torah, d'un des plus grands de sa génération. Évidemment, je dis un des plus grands pour paraître fair play, mais en vérité, c'est le plus grand de toute sa génération. Sans aucun doute, il n'y a aucun doute sur la grandeur et sur le... Voilà, Rav Tzvi Yehuda. Maintenant, il faut comprendre une chose. Le Rav Tzvi Yehuda, Ayabaki Bekol HaTorah Kula, mais ça j'ai envie de te dire, encore une fois, à chaque fois que tu fais un cours sur un grand rabbin, on va te dire, Ayabaki Bekol HaTorah Kula. Il y avait une chose qui était la particularité du Rav Tzvi Yehuda Kohen Cook. La particularité, c'est-à-dire du Rav Tzvi Yehuda, au-delà de ses connaissances, c'était la capacité de voir le monde avec les bonnes lunettes. Et c'est peut-être ça la grande particularité de sa Torah. Voir le monde qui l'entoure avec les bonnes lunettes. C'est-à-dire comprendre que l'État d'Israël n'est pas seulement, eh bien, un sauvetage du peuple juif, c'est bel et bien la Géoula, et que donc notre regard sur la Torah et sur l'âme Israël doivent être vus au rythme de la Géoula. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, le Rav Tzvi Yehuda avait un enseignement qui revenait très souvent. Je le tiens, alors moi j'ai pas eu la chance de connaître le Rav Tzvi Yehuda, je n'ai que 3 ans après sa mort. Donc je ne peux pas, je n'ai pas connu le Rav Tzvi Yehuda, mais j'ai la chance d'être l'élève d'un de ses élèves. Et le Rav Cherki nous a raconté très souvent qu'il y avait une phrase, une Mishnah, que le Rav Tzvi Yehuda répétait très souvent, très souvent, très souvent, et disait il faut surtout pas se tromper dans la compréhension de la Mishnah. À savoir, la Mishnah, vous la connaissez, c'est Eve mitalmidav shel Aaron, Ohev shalom verodev shalom, Ohev et haberiot umekarven la Torah. Le Rav Tzvi Yehuda expliquait toujours que le seul ingrédient dont on a besoin, si on veut pouvoir faire correspondre le peuple juif à la Géoula, c'est Ahava. Ahavat Israël, Gedola, Me'od, mais attention, Ahavat Israël, pas parce que j'ai envie que tu deviennes comme moi. Le Rav Tzvi Yehuda expliquait toujours, Ohev et Abriot, Omekarvan la Torah. Il y a une virgule entre les deux. Ohev et Abriot, virgule, parce qu'elles sont briotes. Pas parce que tu veux les rapprocher à ce que toi tu es. Ohev et Abriot, aime toutes les créatures pour ce qu'elles sont. Et après ça, tu peux les carvan la Torah. Tu peux les rapprocher à la Torah. Mais pas les aimer parce qu'ils deviendront des religieux potentiels. Chas v'shalom. Ohev et Abriot, Omekarvan la Torah. Kamuta Ahava. Comme disait le Rav Kook. Ahava tzricha liot melea balev lakol, nous dit le Rav Kook dans Midot HaReiya. Mais le Rav Tzvi Yehuda concrétise ça dans un monde où finalement, eh bien, la société se mélange. Comprenez-moi bien. Le Rav Kook, à son époque, il y a les religieux et il y a les pas religieux. Mais en vrai, ceci ne rencontre pas cela et cela ne rencontre pas ceci. Les religieux, tu les trouves dans les Yishuv Hayashan et les non-religieux, tu les retrouves dans les nouveaux Yishuvim, dans les nouveaux Kibbutzim. On ne se rencontre pas souvent. Mais après la création de l'État d'Israël, et particulièrement après la création de Tsahal, eh bien, à ce moment-là, la société commence à se mélanger. C'est à ce moment-là que Midat Ahava, eh bien, Tzricha Behemet Liot Melea Balev, la colle. Et le Rav Cherki nous a raconté que lorsqu'il était... Non, non, autant pour moi, Tzricha, je tiens cette histoire, non pas du Rav Cherki, mais du Rav Shmuel Eliyahu. Bon, le Rav Cherki, il raconte la même histoire, mais moi, j'ai entendu la première fois du Rav Shmuel Eliyahu que... Il était encore jeune Talmid à la Yeshiva, jeune Talmid à la Yeshiva de Merkaz Arav, et sont arrivés à la Yeshiva deux plougotes, donc à peu près 150 soldats d'Ektsinim, qui étaient en formation à Bad Echad, qui étaient en formation de Ktsuna, une 150aine de personnes, complètement tous pas religieux évidemment. Et le Rav Tzvi Yehuda a donné un ordre. Ils sont arrivés à la Yeshiva. Ils voulaient rencontrer la Yeshiva de Jérusalem, Yeshiva de Merkaz Arav. Ils voulaient rencontrer le Rav Tzvi Yehuda. Le Rav Tzvi Yehuda a dit, il n'y a pas de problème, je parlerai avec les Ktsinim, mais avant cela, j'ordonne à tous les Bachourim de la Yeshiva, qu'ils soient en Shiur Aleph ou en Shiur 28, l'homme échané, je vous ordonne de vous asseoir chacun une heure avec un des soldats. Lama, parce que vous devez apprendre à vous aimer. Vous allez étudier ensemble la Torah. Et ne me dites pas, je ne suis pas au niveau, je ne connais pas, je viens d'arriver à l'Yeshiva. Zello Meshane. Et seulement après, il a reçu les Ktsinim. Et un des Ktsinim lui a dit, parce que le Rav Tzvi a demandé, alors qu'est-ce que vous retenez de cette heure d'étude? Et un des Ktsinim m'a répondu, bah, c'est bien, mais dites-moi, Rav, est-ce que vous pourriez me résumer la Torah en deux mots? Le Rav Tzvi a souri et lui a dit, bien sûr, en deux mots, Gaavat Yechida. Alors évidemment, pour des soldats, ça parle énormément. Gaavat Yechida, comment est-ce qu'on pourrait traduire ça en français? L'honneur de mon unité. Tu as une unité qui s'appelle Am Israël. La Torah, c'est ce qui donne l'honneur au Am Israël. La notion de Chibour dans toutes les parties du peuple juif, qui était une notion extrêmement importante pour son père, mais comme je l'ai dit, qui était encore là-haut, parce qu'à l'époque du Rav, eh bien, les religieux et les non-religieux, lui, arrivent à faire le chibour. Mais dans la réalité, c'est pas ce qui se passe. Le Rav Tzvi Yehuda va œuvrer pour le chibour dans le Shetach entre les non-religieux et les religieux. En l'occurrence, il écrira, on peut le retrouver dans Orle Nitivati, il écrit qu'avant qu'il mette en place la Messiba, les chagigot à la yeshiva de Yom HaAtzmaout, avant qu'il y ait ça en place, eh bien, il avait l'habitude d'aller se balader, flâner dans les rues de Jérusalem le soir de Yom HaAtzmaout. Eh bien, il raconte que lorsqu'il voyait dans les rues de Jérusalem les garçons, les filles, les jeunes du peuple juif faire la hora, danser, il disait « Ayasham chilul Hashem gadol ». Maya Chilul Hashem. Quoi? Que les jeunes hommes et les jeunes femmes dansaient ensemble? Parce que vous savez bien que, à l'époque, ils dansaient pas séparés. Il dit non. Aya Chilul Hashem Gadol, She'eine Aeda, Lonim Tsaim Besimchat Ha'uma. Que les rabbins ne sont pas présents lors de la joie du peuple juif. Où sont les rabbins? Am Israël Sameach parce qu'il y a Yom HaAtzmaout. Où sont les rabbins? Alors, je vais me permettre, puisque j'ai parlé de ça deux petites secondes, je vais me permettre tout simplement de vous donner une toute petite anecdote et vous en ferez évidemment chacun ce qu'il veut. Mais c'est-à-dire, je ne sais pas qui est en train d'entendre le chiour. Est-ce qu'il y a des fans de la yeshiva de Har HaMor? Est-ce qu'il y a des gens qui sont plus... voilà, vous m'avez compris. Donc, je vous donne une anecdote, vous en faites tout ce que vous voulez. Mais je la tiens de premier abord du Rav Cherki, qui m'a dit qu'une année, le Rav Tzvi Yehuda ne se sentait pas bien à Yom HaAtzmaout. Il n'a donc pas pu faire la tfila à la yeshiva, mais les bachourim, dont le Rav Cherki, se sont organisés pour faire un petit minyan chez lui, Rehov Ovadia, dans sa maison, pour qu'il puisse quand même prier Yom Ha'atzmaout, tout ça. Et le Rav Cherki nous raconte que vous en faites ce que vous voulez, mais quand il a fait la tfila chez lui, à la maison, pour Yom Ha'atzmaout, à la fin de la tfila Shmoneh Esrei le soir, ou birech ala halel be yom ha'atzmaout le soir. Kacha. Après, vous en faites ce que vous voulez. C'est-à-dire, c'était juste pour le kiff. Bekitsour.
Non, c'était pas pour le kiff, c'était pour Jacques.
Ah, c'était pour Jacques. Non, mais Jacques, je sais que c'est un convaincu, démon. C'est bon. Lui, j'ai plus besoin de le convaincre. Il y en a d'autres que je dois convaincre. C'est-à-dire. Mais évidemment que l'un des très très grands axes dans lequel le Rav Tzvi va agir, c'est évidemment, on parle de concrétisation, de réalisation du projet du Père, eh bien il est évident que l'un des grands 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 projets du Rav Tzvi Yehuda, eh bien vous le savez, ça va être l'Aïtiashvout. L'Aïtiashvout, évidemment, ça y est. On peut maintenant réaliser eh bien, la réalité du peuple juif sur sa terre. J'aimerais que vous compreniez qu'à l'époque, après la guerre des six jours, parce qu'on connaît la photo, on a parlé de cela lorsqu'on a fait le cours sur le Rav Goren, sur le Rav Anazir. Oui, le Rav Goren, une fois qu'il est avec son drapeau, qu'il a dit « Arabaït Beyadenu », il fait amener une jeep pour ramener au Arabaït et au Kotel le Rav Anazir et le Rav Tzvi Yehuda. Donc oui, ils vont être là tous les deux, bien sûr. Mais il faut comprendre une chose. Après cela, après la guerre des six jours, on a conquis la Judée-Samarie. Et je vais y revenir dans deux secondes. Qui y habite? Il n'y a personne là-bas. Il n'y a personne là-bas. Le Rav Tzvi Yehuda va œuvrer énormément pour, d'abord, c'est lui qui va créer le mouvement qui va s'appeler Gush Emunim. Et il va œuvrer énormément pour que, eh bien, finalement, Am Israël revienne s'implanter, Bekol Makom, Be'eretz Israël. Ce n'est pas seulement une parole. Il sera là lorsque les premières Massayot, les premiers camions, partiront à Sébastia, partiront finalement créer la Itnachalut de Elon Moré, la première des Itnachaluyot. Il faut savoir que les élèves de Yeshivat Merkaz Arav, lorsqu'ils veulent commencer à aller à Elon Moré, enfin à Sébastien au début, eh bien, ils viennent voir le Rav Tzvi Yehuda pour lui demander sa bracha. Et le Rav Tzvi Yehuda répond, « Ah, zelo yelech. » Il leur dit, « Top, ok. » Les gens reviennent le voir deux jours plus tard en disant, « Ça y est, on s'est organisé un groupe. On est prêt à y aller, on voudrait la bracha. » Le Rav Tzvi Yehuda a répondu, « Ça ne marchera pas, le peuple n'est pas avec nous. » Top, ils sont repartis. Ils sont venus une semaine plus tard en disant « Les camions sont en chemin, ça y est. » Et à ce moment-là, le Rav s'est levé, les a bénis et leur a dit « Ah, là on peut vérifier si votre volonté était profonde ou pas. Ce n'est que comme ça qu'on va réussir à convaincre le reste du monde et le reste du peuple juif. » Concrètement, aujourd'hui à Elon Moré, eh bien à côté d'Elon Moré, va pousser comme des champignons bien la Judée Samarie. Ariel, Véotre, je sais pas moi, Elkana, Véotre, Carnet Chomron, ve tout ce que vous voulez. Tous les Yishuvim de la Samarie, du Chomron. Mais si on parle, eh bien, si on parle de cette Itnachalut, si on parle de la prise de possession concrète de tous les territoires de Eretz Israël, eh bien, les amis, là, les amis, il faut qu'on le dise. Il y a un moment qui ne passera pas inaperçu dans la vie du Rav Tzvi Yehuda. C'est d'ailleurs la miniature que Elie a envoyée pour le shiur. C'est ce qu'on appelle Mizmor Yutet Lemedinat Israël. Qu'est-ce que c'est Mizmor Yutet Lemedinat Israël? Alors, c'est très connu, mais je ne peux pas ne pas en parler. Nous sommes à Yom Ha'atzmaout 1967. Cela fait 19 ans que nous avons un État. Un petit État, mais un état quand même. Évidemment, tout le monde est heureux, tout le monde est content, même si, eh bien, voilà, il nous manque Jérusalem, il nous manque la Judée-Samarie. Depuis 19 ans, il y a à Yom HaAtzmaout un festival, un concours de chant qui est organisé à Binyané Aouma à Jérusalem, au Palais des Congrès. Cette année-là, on est à même pas un mois de la guerre des six jours. Personne ne le sait que dans un mois, ce sera la guerre des six jours. Mais il y a le festival Azemer. Pourquoi je vous parle du festival Azemer? Parce que, eh bien, cette année-là, il y a une jeune femme qui monte sur la scène, qui a une guitare et qui va chanter une chanson. Elle s'appelle Shuli Nathan et elle va chanter la chanson de Naomi Shemer que vous connaissez tous, Yerushalayim Shel Zahav. Seulement au même moment où à Binyané Aouma elle chante, à 500 mètres de là, à la Yeshivat Merkaz Arav, le Rav Tzvi Yehuda fait son discours de Yom HaAtzmaout, comme depuis 19 ans. Il fait son discours de Yom HaAtzmaout et à un moment donné, et écoutez-moi bien, à un moment donné, sa voix change. Mais mamash, keilu, mamash, keilu, quelqu'un est rentré dans son corps et parle à sa place. Et le Rav, avec une voix forte et sévère, tape du poing sur la table et dit « Efo Yericho shelanu, Efo Shrem shelanu, Efo Hevron shelanu, Efo Ever Yarden shelanu, Efo Yerushalayim shelanu, ma shachachtem ?» Vous avez oublié ? Et en fait, le Rav Tzvi Yehuda va nommer tous les endroits que un mois plus tard, on va conquérir. Il n'en avait jamais parlé comme ça. Pourquoi il en a parlé à ce moment-là? Quand on lui a demandé après, il a répondu « Nidbarti levad ». C'est pas moi. C'est pas moi. Quelqu'un a parlé à ma place. C'est énorme. Cette même année, après la guerre des six jours, lorsqu'on arrivera à Yom HaKippourim, eh bien, le Rav Tzvi Yehuda sera le chazan de Tfilat Moussaf de Yom HaKippourim. Et lorsqu'on lit le Seder HaAvoda, lorsqu'on lit ce que le Kohen Gadol faisait à l'époque du Bet HaMikdash, eh bien, très souvent, on revient sur la formulation « Vechach Aya Omer ». Et c'est ainsi que le Kohen disait. Le Rav Tzvi Yehuda, tous les élèves étaient choqués. Mais dans cette fila, il a dit « Vechach Ayiti Omer ». Et c'est comme ça que je disais. Oui, oui, quand j'étais un Kohen Gadol à l'époque au Beth Amikdash, je me souviens. L'air Tavinetze. Vous savez, parmi les élèves qui sont là, qui ont entendu le Mizmor Yud Tet, qui ont entendu la Tfila du Kohen Gadol, il y a un jeune élève qui est en Mashber. Il est en Mashber parce que le Rav Tzvi Yehuda lui a donné un rôle pas cool. Il lui a donné un rôle pas cool puisque c'est lui qui est responsable. Il est le madrir des Tseirim. Et il est responsable de réveiller les jeunes tous les matins pour les amener à la tfila. Et c'est un rôle extrêmement ingrat. Eh oui, parce que les jeunes, ils veulent pas. Et lui, il n'a pas envie d'être mal avec eux. Et ben, il ne veut pas être mal avec le Rav. Et donc, à un moment donné, après un énième refus d'un des jeunes de se lever, eh bien, ce madrir vient dans le bureau du Rav Tzvi Yehuda et lui dit, Kvod Harav, je vous remercie beaucoup de m'avoir permis d'être le madrir des jeunes pour me donner une petite mascorette pour que je puisse étudier ici. Mais c'est pas pour moi. Donc finalement, je vais pas rester le madrir. Je vais apprendre à être Sofer Stam. Et je vais écrire des mezouzot, et c'est comme ça que j'aurai ma part en ça. Ah ah. Et le Rav Tzvi Yehuda lui dit, mais pourquoi? Pourquoi tu veux devenir Sofer Stam? Il dit, bah c'est très important d'écrire Sefer Torah, mezouzot, tfilin. Le Rav Tzvi Yehuda lui dit, c'est vrai que c'est très important, mais en fait tu écris sur du parchemin. Il dit oui. Elle dit, sache que si tu restes madrir, des jeunes, tu pourras écrire dans des cœurs. Et finalement, Dovele, c'est comme ça qu'on l'appelait à la yeshiva, Dovele finalement décide de rester à la yeshiva. Et quoi? Vous croyez que le Rav Tzvi Yehuda a stam parlé? Dovele, il va devenir le Rav Dov Bigon qui va créer le Machon Meir. Tout simplement. Pourquoi il crée le Machon Meir? Parce qu'un jour, il vient voir le Rav Tzvi Yehuda en lui disant « Moi, je viens du kibboutz. Moi, j'ai eu la chance d'un jour vous rencontrer. Mais il y en a plein qui sont au kibboutz et qui ne vous rencontrent pas. Et qui ont nulle part où aller. Qui ont des questions et personne ne peut leur répondre. » Le Rav Tzvi Yehuda dit au Rav Bigon « Bah alors, crée un endroit où on donnera des réponses. » Et c'est ainsi que le Machon Meir va naître. Les amis, quand on parle du Rav Tzvi Yehuda et qu'on parle de Ahava, qu'on parle de Kdushat Haaretz, de concrètement Kdushat Haaretz, concrètement Kdushat Am Israël, il ne faudrait pas quand même oublier Kdushat Torah. Chas vechalila, de penser que le Rav Tzvi Yehuda était extrêmement présent sur le plan du Am Israël, sur le plan de Eretz Israël, mais pas sur le plan de la Torah. Le Rav Tzvi Yehuda expliquera que l'un des chiours les plus importants qu'il a reçus de son père, c'est une lettre qu'on retrouve dans Igrot Reiya de remontrance, où le Rav Kook envoie une lettre à son fils et lui commence en lui disant « Beni Mahmadi Yekiri Ahuvi, mon fils chéri, je suis très heureux d'apprendre que tu reviens sur ton étude 30 fois. » C'est-à-dire que le Rav Tzvi Yehuda avait l'habitude de revenir sur ce qu'il étudiait 30 fois. Il dit « Aval lo evanti lama shloshim sheare amru lanu chazal shelo dome mi shelomed mea pe'amim le mi shelomed mea ve'echad pe'amim. » Le Rav Tzvi Yehuda répond que c'est peut-être le plus grand chiour qu'il a reçu de son père. Que pour pouvoir réaliser Kdushat HaTorah, Kdushat HaAretz et Kdushat HaUma, il faut être extrêmement présent avec Kdushat HaTorah. Mais ça va plus loin, parce que si on est présent avec Kdushat HaTorah, ça nous permet de bien comprendre Kdushat HaUma avec Kdushat HaAretz. Il y a un rabbin, à l'époque du Rav Tzvi Yehuda, alors que le Rav était déjà en fin de vie, il y a un rabbin, dont on ne va pas forcément dire le nom, mais qui était à Bnei Brak et qui était le plus grand dirigeant du monde litaï des années 70-80. Voilà, si vous savez qui c'est, voilà, ça suffit, on ne va pas aller plus loin. Il a un jour été extrêmement méprisant envers le Rav Tzvi Yehuda, disant qu'il ne comprenait rien à la Torah. Le Rav Tzvi Yehuda ana, mi shelo yodea lechaber, celui qui n'arrive pas à relier Kdushat HaTorah à kol kach hashuva, im Kdushat HaMedina à kol kach nisgava, areum kedin amebalbel amebulbal mibnei brak. Celui qui n'arrive pas à relier la Torah avec la Kdusha de l'État d'Israël, alors il n'est autre que quelqu'un qui se trompe et trompe les autres. Voilà, on ne va pas donner des noms, hein, évidemment, sinon ce n'est pas intéressant. Mais cette notion de Kdusha à Médina, ça a été le combat de sa vie. Kdusha à Médina, tout simplement. Rabotai, je ne vais pas vous faire énormément d'histoires. Il y en a tellement des histoires. Mais le Rav Tzvi Yehuda, finalement, va donner une phrase. Une phrase qui va rester dans l'histoire. À savoir, Lo Nazuz Mipo le Olam. Lo Nazuz Mipo le Olam. C'est cette phrase qu'il dira à la radio israélienne devant les murs du Kotel lorsqu'il arrive en 1967. Lo Nazuz Mipo le Olam. Kachazé. Et c'est une réalité. Le Rav Tzvi Yehuda, Rav Tzvi Yehuda à Cohen Cook, eh bien finalement, sera celui qui va éduquer une génération à faire ce chibour. Il était également tellement naturel dans son rapport avec Akadosh Baruch Hu. C'est peut-être ce qui manque tellement des fois à des rabbins. Ils sont très religieux, mais tu sens qu'il y a un problème. C'est pas naturel. Le Rav Tzvi Yehuda, le soir de Shabbat, pas que le soir d'ailleurs, les repas de Shabbat, avait l'habitude de ne jamais donner de Dvar Torah pendant le repas de Shabbat. Pas de Dvar Torah là-bas. Parce qu'il ne faudrait pas penser que la valeur du repas de Shabbat, c'est grâce aux paroles de Torah qu'on va dire. La valeur du repas de Shabbat, c'est le repas de Shabbat. Et c'est une valeur suffisante, elle se suffit à elle-même. Le Rav Tzvi Yehuda, quand il écrit les Sichot à Rav Tzvi Yehuda, son commentaire de la Parashat HaShavua, ça semble être d'une évidence qu'il dit, et d'une pashtoute. C'est simple, Nahon, c'est simple. C'est tellement simple qu'il fallait y penser. Et c'est ce que nous fait le Rav Tzvi Yehuda. Il va tout simplement nous redonner une vision naturelle du rapport entre le peuple juif, Dieu, la terre d'Israël et la Torah. C'est peut-être ça le grand enseignement du Rav. Du Rav Tzvi Yehuda à Cohen Cook. La traduction de l'enseignement de papa, qui était dans les mondes théoriques, eh bien, se subdivisait en trois grands sujets. Le Rav Cook a parlé pour la Torah, le Rav Cook a parlé pour la Ouma, et le Rav Cook a parlé pour la Médina, pour la terre d'Israël. Le Rav Tzvi Yehuda va réussir à réunir les trois. Mais ce n'est pas une réunion factice. L'importance de la Torah était évidente. Mais pour lui, l'homme qui étudie la Torah ne doit pas seulement donner à l'autre, mais doit recevoir de l'autre. Il y a eu, dans les années 70, un cas qui a ébranlé le kibbutz Kinneret. Qu'est-ce qui s'est passé? Le kibbutz Kinneret a été complètement, retourné du cas. Il y a deux jeunes du kibbutz qui ont été pris en train de fumer dans les champs à rien faire. Et c'était un coup de massue pour les hommes du kibbutz. Parce que, comment ça vous faites rien? Ben, ils ont dit, ouais, on a fini notre boulot, on n'a rien à faire. Alors que pour les gens du kibbutz, t'as fini un truc, faut en faire un autre. Qu'est-ce que ça veut dire, on n'a rien à faire? Le kibbutz Kinneret a organisé une grande journée d'approfondissement et d'études sur le sujet du temps libre. Que faire de son temps libre? Et ils ont amené un panel de gens très intelligents pour expliquer qu'est-ce qu'il fallait faire du temps libre. Comme ils voulaient être très pluralistes, ils ont envoyé un message au Rav Tzvi Yehuda de la Yeshiva de Merkaz Harav, qui leur envoie également un ou deux bachourim pour qu'ils expliquent qu'est-ce que les religieux ils font de leur temps libre. Rav Tzvi Yehuda a envoyé deux élèves. Et quand c'est arrivé leur tour de parler, ils ont expliqué que chez nous, à la Yeshiva, il n'y a pas de temps libre. Ça n'existe pas chez nous, le temps libre. Soit on est en train d'étudier, soit on est en train de prier, soit on est en train de manger, soit on est en train de dormir, parce que la nuit, on dort. Mais c'est où ? On n'a pas de temps libre. Et les gens ont été très intéressés, pas qu'ils allaient devenir religieux, mais ce concept qu'il y a toujours quelque chose à faire, c'est quelque chose qui leur parlait énormément. Et donc après, ils ont posé plein de questions à la fin de l'intervention des Bahouim. Et il y a une petite fille de 12 ans qui était là et qui a posé la question. Elle a dit, bon, après que vous nous ayez tellement appris, qu'est-ce que vous avez appris de nous ? Vous êtes là depuis une journée, qu'est-ce que vous avez appris de nous ? Et les Bahouim ne savaient pas trop quoi répondre. Alors ils ont dit, ben, dites-nous vous, qu'est-ce qu'on a à apprendre de vous ? Et les organisateurs de la conférence ont préféré buter en touche. Quand ils sont revenus à la yeshiva, ils ont raconté l'histoire au Rav Tzvi Yehuda, qui leur a dit « Comment ? Vous n'avez rien à leur répondre ? Vous ne saviez pas quoi répondre quand ils ont dit « Et qu'avez-vous à apprendre de nous ? Parce que vous pensez qu'il n'y a rien à apprendre des kibbutznikim ? De leur messirut nefesh pour la terre d'Israël ? De leur rêve d'une justice sociale vraie ? Quoi, il n'y a rien à apprendre d'eux ? Alors vous n'avez rien compris à notre Torah. La réunion de la Torah, du peuple d'Israël et de la terre d'Israël n'était pas, chez le Rav Tzvi Yehuda Kouk, un simple slogan. Ça a été une réalité mise en pratique au quotidien dans sa vie. Finalement, qu'est-ce qu'on y retiendra ? Eh bien, finalement, on retiendra une chose. Le Rav Tzvi Yehuda va accompagner la Géoula. Lorsqu'il meurt en 1982, il laisse derrière lui un mifal énorme, puisque finalement, toute la Itiashvut, toute la conception d'implantation religieuse nationale, c'est le Rav Tzvi Yehuda Cohen Cook. Tous les Yishuvim, où tu vois des gens avec des kippotes, c'est l'influence du Rav Tzvi Yehuda. Toute cette Torah qui aujourd'hui nous paraît tellement évidente, qui arrive à traduire cette union entre Am, Torah et Aretz, c'est Rav Tzvi Yehuda. Et c'est peut-être pas pour rien que, alors qu'aujourd'hui, les Bnei Noach, c'est quelque chose qui grandit, à l'époque, dans les années 70, il y avait très très peu de goyim qui se revendiquaient de Bnei Noach. Mais il y avait le groupe des Makoya. Le groupe des Makoya japonais qui venait tous les ans chez le Rav Tzvi Yehuda parce qu'il voyait en lui le seul rabbin qui était honnêtement le successeur de Moshe Rabbeinu. C'est comme ça qu'il le présentait. On en a connu beaucoup des rabbins, mais certains étaient plus là. Enfin, Rav Tzvi Yehuda, il est partout. C'est ça, l'enseignement de Moreno Rav Tzvi Yehuda. Et je voudrais terminer simplement sur une toute petite histoire, quand même. C'est pas comme si on avait dit des histoires toute la journée, mais c'est quand même chashuv meod. Qu'est-ce qui permet à quelqu'un de faire autant de choses ? Qu'est-ce qui permet à celui qui sait tout de continuer à nous enseigner ? Eh bien, les amis, si je viens de vous dire qu'il était domé le Moshe Rabbeinu, d'abord, il faut savoir que ça, c'est ce que va dire le Rav Harlap. Le Rav Harlap, qui est l'élève du Rav Kook, mais qui est l'ami du Rav Tzvi Yehuda, dira « En safek » qui a Rav Kook ou Ayam Prinat Aaron HaKohen. Beot chez Rav Tzvi Yehuda ou Miprinat Moshe. Les amis, le Rav Tzvi Yehuda, il avait une capacité de Hanava absolument incroyable. L'anecdote, elle est très simple. Un jour, il y a un homme, je ne sais pas si vous avez entendu parler, qui s'appelle Hanan Porat. Et Hanan Porat, il rentre dans le bureau du Rav Tzvi Yehuda avec une Sheela. Tu es là. Et le Rav dit, Barour, Barour, il m'a quitté la tchouva. La tchouva, c'est Bemasechet Zvachim. Et là, il dit, je me rappelle plus. Je me rappelle plus quelle page. Et le Rav Tzvi va prendre toute la Masechet et va réétudier toute la Masechet. Le lendemain, il rappelle Hanan Porat, tu dis, excuse-moi, voilà la source. Remez Mishamaim, que si on te pose une question et que tu crois que tu connais tout, et tu dis, ah bah oui, bah évidemment, c'est que tu n'es pas encore assez présent dans le sujet. Comment tu peux te permettre de dire, bah oui, évidemment. Non. Semble-t-il que si tu penses que tu sais pas encore bien. Cette capacité de se remettre en question, cette capacité de vouloir toujours chercher la réalisation honnête de l'idée, eh bien, c'était l'œuvre du Rav Tzvi Yehuda Kook. Lorsque, évidemment, je vous ai dit, il avait été attaqué dans tous les sens, pas seulement en tant que fils d'eux, mais également en tant que Rav Tzvi Yehuda lui-même, il y avait plein de groupes qui n'étaient pas d'accord avec sa vision des choses, sa façon de voir la Torah. Et dans certains cercles religieux, eh bien, il y a souvent des gens qui étaient contre. Mais même ceux qui étaient contre lui ont tous été le voir. Il avait cette capacité que tout le monde revoyait et reconnaissait en lui un aimant vers une authenticité vraie. Alors je vous dis, c'est pas seulement les juifs, pas seulement les religieux. Évidemment qu'il y a plein de politiciens qui allaient le voir très souvent, comme Menachem Begin et d'autres. Mais saviez-vous qu'il avait reçu les dirigeants du Yishuv Aharavi Be'eretz Israël? Il a reçu dans son bureau les dirigeants du monde arabe en Israël. Sauf que lorsque les Arabes lui ont demandé de pouvoir venir le voir, il a dit, très bien, je vous reçois à une condition. Ma condition, c'est qu'avant que vous veniez chez moi, vous signiez un papier comme quoi nous ne vous avons volé aucun pays, que les Juifs n'ont rien volé, que les Turcs avaient pris le contrôle du pays, les Anglais les ont détrônés et les Anglais nous ont donné le pays. Nous n'avons rien volé à aucun Arabe qui habite en Israël. À votre avis, ils ont signé ou ils n'ont pas signé? Ils ont signé. Ils ont signé. On a ce papier-là qui aujourd'hui trône dans le bureau du Rosh HaYeshiva de Merkaz Arav, le Rav Yaakov Shapira. Il était avant ça dans le bureau de Rav Avrum Shapira et dans le bureau du Rav Tzvi Yehuda. Ce papier existe bel et bien. Parce que même ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui voyaient en lui l'homme qui représentait l'authenticité du message de la Géoula. Il terminera sa vie après avoir, évidemment, j'en ai pas parlé, mais ça je le garde pour le cours sur le Rav Kook, mais une grande, grande, grande partie de sa vie, de son énergie, sera de sortir les livres de son père, évidemment. Mais à la fin de sa vie, eh bien, lorsqu'on lui demandera de donner une définition à sa Torah et à celle de son père, il dira deux mots. Et c'est là tout l'enseignement du Rav Tzvi Yehuda. Ha Torah Hagoelet, la Torah qui nous permet de dévoiler la Géoula. Zehaya, Moreno Arav Tzvi Yehuda, Chose Hageoula, lo Chose, slicha, Tzofe Hageoula. Si son père était le Chose Hageoula, lui, il l'a accompagné et il l'a traduite dans une réalité dans ce peuple juif qui revient à la vie. Nous sommes aujourd'hui, et je dis nous, tous, toute personne qui se balade en Eretz Israël aujourd'hui, pour qui c'est important la terre d'Israël, pour qui c'est important la Torah, tous sont les élèves du Rav Tzvi Yehuda. Alors qui est, parce que c'est bien beau de dire qu'on est tous des élèves du Rav Tzvi Yehuda, qui est son véritable successeur, qui est son élève? Ah ben voilà une bonne question, quelle est bonne. D'autant plus quand on sait qu'aujourd'hui, les élèves du Rav Tzvi Yehuda, eh bien, se tirent un petit peu dans les pattes et il y a plein de mouvements différents. Eh bien, les amis, j'ai posé cette question, moi, personnellement, j'ai posé la question au Rav Cherki. Je lui ai dit, « Mi aval, mi talmida Rav Tzvi Yehuda, hu a yoresh, hu a mamshir darko ?» Et le Rav Cherki de me répondre, « Ani. » Et c'est ainsi que nous allons terminer notre étude de ce soir à Rav Tzvi Yehuda, le traducteur du Rav Kook, celui qui l'a rendu accessible dans notre monde et qui a construit une génération qui est en train de construire la Géoula. Chazak Ubaruch, le Erev Tov Lekulam.
Exceptionnel, Chazak Ubaruch. Justement, quand tu as dit Rav Cherki,